Bonjour, chers auditeurs, bonjour à vous tous qui me retrouvez aujourd'hui. Je m'en réjouis. Et voilà, je vous propose de continuer à avancer ensemble dans notre méditation, dans notre réflexion, dans notre lecture, dans notre découverte des merveilles de l'écriture et ce qu'elle nous révèle sur le mariage. Et aujourd'hui, j'avais le désir avec vous de réfléchir plus précisément à une question qui est totalement essentielle pour notre foi, qui est la réalité universelle, qui est la réalité du corps humain. Et finalement, parce que finalement, notre foi, elle est totalement une foi du corps, une foi, c'est une foi de l'incarnation, c'est une foi du corps, mais encore, peut-être faudrait-il réfléchir encore pour savoir comment est-ce que nous pouvons définir le corps. Par exemple, quelle est la différence entre le corps, lorsqu'on parle du corps, mais on parle aussi de la personne. Donc, quelle peut être la différence entre les deux? Est-ce que la personne englobe le corps ou est-ce que c'est une façon plus spirituelle de voir les choses? Voilà, et surtout, je pense que ce qui est très important, c'est qu'ensemble, nous essayons de comprendre la place que le corps a dans notre foi et dans la compréhension de notre foi, dans l'approfondissement de notre foi. Alors, bien évidemment, c'est une question qui est extrêmement ample, qui est complexe. Et voilà, nous avons une petite heure ensemble pour essayer ensemble de trouver des clés de lecture. Hein. Voilà, c'est déjà mon ambition est de vous donner quelques clés de lecture pour que la prochaine fois que vous ouvriez la parole de Dieu, que vous ouvriez la Bible, eh bien, ces textes prennent un relief différent pour vous. Alors, bien évidemment, ceux qui me connaissent déjà ne seront pas surpris de savoir qu'une fois de plus, bien évidemment, je vais vous proposer de nous rapprocher des premiers chapitres de la Bible parce que ces chapitres nous donnent des informations essentielles, ces chapitres nous enseignent sur ce qu'est le corps dans le plan de Dieu, comment est-ce que Dieu conçoit l'humanité à travers sa réalité corporelle. Alors, il y a une chose déjà, une affirmation qui paraît évidente, mais qu'il faut redire, c'est que le corps est le lieu où l'homme peut faire l'expérience de la relation à Dieu. Le corps est le lieu où l'homme peut aimer, peut faire l'expérience d'un amour qui soit égal à celui de Dieu. Hein? Aimez-vous comme je vous aime, aimez-vous comme le Père vous aime. C'est bien le grand commandement de l'amour qui est donné par le Christ. Et ce commandement de l'amour, il nous est donné à nous qui sommes des êtres charnels, nous ne sommes pas des esprits. Donc c'est bien avec ce corps que nous sommes appelés à expérimenter l'amour de la même façon que Dieu aime. Alors, dans ces textes de la Bible, hein, ces premiers textes qui nous racontent la création, il y a un verset dans le chapitre 1 du premier chapitre, donc tout au début, il y a un verset qui est très connu, qui est très célèbre, hein, ce texte qui nous raconte comment est-ce que Dieu crée, c'est un poème, hein, bien sûr. Il y a donc le verset 26, Dieu dit, faisons l'homme à notre image comme notre ressemblance. Et au verset 27, Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il le créa. Homme et femme, il les créa. Mâle et femelle, il les créa. Donc voilà que le texte insiste énormément sur la différence qui existe entre l'homme et la femme. Ils sont différents et cette différence, elle se manifeste dans leur corps puisqu'ils ont chacun un corps d'homme ou un corps de femme. Donc, l'homme et la femme sont différents et donc différents dans ce qu'il y a de plus profond, de plus fondamental en eux, c'est-à-dire différents dans leur, ce que l'on appelle la détermination sexuelle. Hein. Je ne parle pas d'acte sexuel, mais juste comprendre que l'humanité, eh bien, elle est masculin ou féminin. Elle n'est pas indifférenciée, elle n'est pas à. La masculinité et la féminité sont, ne sont pas des choix, ce sont des évidences qui sont données et qui font que l'humanité peut être humanité. Ce que nous apprenons, c'est que l'état de mâle et de femelle de l'humanité, eh bien, cet état très charnel, très corporel, eh bien, nous voyons que c'est cela qui permet de dire qu'ils sont image de Dieu, puisque le texte nous dit, à l'image de Dieu, hommes et femmes, il les créa. Cela veut dire que d'être homme et femme, mâle et femelle, eh bien c'est cela qui fait qu'ils sont à l'image de Dieu, c'est-à-dire qu'ils sont capables d'amour et de relation à la façon de Dieu. Ils sont capables de vivre l'amour et la relation à l'autre comme Dieu vit l'amour et la relation. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous savons bien que Dieu n'a pas de corps. Donc lorsque le texte nous dit qu'ils sont créés mâles et femelles à l'image de Dieu, cela ne fait pas référence à un corps, cela fait référence à la façon d'être et d'aimer de Dieu. Nous avons vu, et la tradition tout entière, la tradition chrétienne, dit que la première présence de la Trinité se trouve dans ces deux phrases. Lorsque Dieu dit faisons l'homme à notre image, notre tradition chrétienne nous dit que nous avons là le premier exemple de dialogue des personnes de la Trinité, et donc ce pluriel, hein, ce faisons l'homme, manifeste la réalité de cette relation trinitaire, de cette relation de la Trinité. Et nous savons que dans la Trinité, nous savons que l'amour qui unit les trois personnes de la Trinité, nous savons que c'est un amour qui est fondé sur le don de soi et sur la gratuité absolue. C'est un amour qui se nourrit sans cesse du don de soi, du don gratuit, de l'amour et de la complaisance de l'autre personne. Eh bien, voilà en quoi l'humanité qui est créée mâle et femelle peut être dite à l'image de Dieu, c'est que en étant créée homme et femme, eh bien l'humanité a la possibilité de vivre cet amour et ce don gratuit. Il faut comprendre, en fait, que la rencontre du masculin et du féminin, parce qu'ils ont de fondamentalement identiques, c'est-à-dire leur humanité, hein, l'homme et la femme sont l'humanité, faisons l'homme, faisons l'humanité à notre image. Hommes et femmes. Hein. On pourrait lire le verset comme ça. Faisons l'humanité à notre image. Nous faisons l'humanité hommes et femmes. Eh bien, cette humanité fait qu'ils sont fondamentalement identiques, cet homme et cette femme. Donc, ils méritent le même respect, ils ont la même dignité. Et dans le même temps, l'homme et la femme, par le fait qu'ils soient hommes et femmes, ils sont fondamentalement différents. Et cette différence fondamentale, à cause de leur masculinité et de leur féminité, fait qu'ils peuvent vivre la relation à l'autre et l'amour comme Dieu, à l'image de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils sont tellement et totalement différents l'un de l'autre que ils ne peuvent ils acceptent et peuvent accepter que l'autre reste à jamais un autre qu'on ne peut posséder parce qu'il nous est totalement autre et totalement différent. Dans l'humanité, l'homme et la femme se reconnaissent comme, vous savez, dans le chapitre 2, L'homme dit, voilà, la chair de ma chair et les os de mes os. L'homme et la femme se reconnaissent fondamentalement faits pour l'union. Et dans le même temps, la reconnaissance de cette différence fondamentale fait qu'ils se regardent comme chacun ne pouvant devenir identique à l'autre, devenir le même, chacun étant totalement différent et donc chacun devant respecter l'autre dans toute sa personne et dans l'absolu de sa différence. C'est ainsi que la relation dans l'humanité est voulue par Dieu. Cette relation, elle est voulue comme une relation fondée en même temps sur l'identique de l'humanité et en même temps sur la différence fondamentale de la détermination sexuelle qui fait que l'homme et la femme se regardent l'un l'autre. Toi, je suis différent de toi, mais je me donne à toi et je veux que ce don de moi que je fais, eh bien, je veux qu'il soit le plus gratuit possible et le plus généreux possible. Voilà quel était le plan de Dieu, quel est le plan de Dieu qui nous est raconté dans les premiers chapitres de la Genèse. Voilà quel était ce plan. Mais ce qui est le plus important et le plus essentiel, c'est que l'homme et la femme qui sont créatures, qui ne sont pas Dieu, hein, qui sont à l'image de Dieu, mais qui ne sont pas Dieu, qui sont créatures de Dieu, eh bien, ne pouvaient vivre cette relation de don réciproque que dans une union totale avec Dieu. Et tous les textes de la création de l'homme et de la femme nous enseignent, nous apprennent que cette communion entre l'homme et la femme, qui était dans le plan divin, eh bien, cette communion, elle devait prendre sa source et elle prenait sa source dans l'amour même de Dieu. C'est essentiel de bien comprendre cette affirmation, c'est que aux origines, hein, comme le dit la Bible, aux origines avant la chute, eh bien, la relation entre l'homme et la femme était bien une relation d'union et de communion, mais elle était une relation d'union et de communion parce qu'elle était enracinée dans la relation d'union et de communion à Dieu. L'un ne peut pas et ne pouvait pas aller sans l'autre. Parce que l'homme et la femme étaient totalement ouverts à la grâce divine, ils pouvaient vivre de façon totale cette relation de don et de communion. Et bien évidemment, vous connaissez la suite de l'histoire, si j'ose dire malheureusement, hein, le plan de Dieu était magnifique, mais nous savons que par l'orgueil qui anime l'homme, eh bien, nous savons que cet orgueil, finalement, à travers les textes imagés du début de la Bible, eh bien, ce que nous racontent ces textes, c'est que l'homme et la femme refusent que son bonheur dépende de Dieu. Finalement, le péché des origines, on pourrait le décrire comme cela, comme le refus de dépendre de Dieu pour vivre cet amour et cette communion. C'est bien ce que dit le serpent, hein. Le serpent leur dit, mais non, vous n'avez pas compris, il faut que vous mangiez le fruit que Dieu vous a défendu de manger, parce qu'à ce moment-là, vous serez comme des dieux et vous pourrez être heureux par vous-même. Vous connaîtrez tout, vous aurez la connaissance, et donc vous pourrez être heureux par vous-même, vous pourrez être égaux à Dieu et vous n'aurez plus besoin de lui pour vivre cette vocation d'amour et de communion. Et voilà le sens, voilà comment est-ce que l'on peut comprendre, une des façons dont on peut comprendre cet élément fondamental du péché originel, hein, c'est cette révolte de l'homme qui consiste à vouloir faire son bonheur sans Dieu, avec les conséquences qui sont terribles. Les conséquences de cette révolte sont terribles, puisque la relation entre l'homme et la femme va se trouver brouillée, va se trouver abîmée, et le don va être remplacé par la convoitise. Voilà ce que l'on apprend sur cet événement fondamental et cosmique, je dirais, de ce que l'on a appelé la chute de l'homme, mais qui est cette rupture fondamentale. Et ce qui est important pour notre réflexion de ce soir, puisque nous réfléchissons sur le corps, ce qui est important, c'est que le corps humain, qui faisait partie du plan divin pour être à l'image, eh bien, le corps humain de l'homme et de la femme est touché lui aussi par la révolte. Et le langage d'amour que portait le corps dans les origines, eh bien, ce langage d'amour se trouve lui aussi perverti. Est-ce que le corps humain était un des éléments essentiels du plan divin de la première alliance que Dieu fait avec l'humanité lorsqu'il leur dit croissez, multipliez-vous? Parce que c'est en tant qu'homme et femme, en tant que corps d'homme et corps de femme que l'humanité est invitée à participer à la fécondité de la création, eh bien ce corps, il va lui aussi être touché, être abîmé, et son langage propre va être touché, abîmé et perverti. Et donc, ce que nous appelons le péché des origines, qui n'est rien d'autre qu'une révolte de l'homme, eh bien, il va laisser cet homme dans une situation de dénuement que la Bible décrit comme une nudité qui fait peur. Vous voyez que c'est très symptomatique que dans la Bible, lorsque l'homme et la femme de façon imagée, hein, parce que ce n'est pas vraiment ce qui s'est passé, mais lorsque l'homme et la femme ont cédé à la tentation et ont pris le fruit de la connaissance, ce qui leur arrive immédiatement, ils mangent le fruit et ils virent qu'ils étaient nus. Il n'est pas question de définition spirituelle, ils se rendent compte que Dieu n'était plus, etc., etc. Non, ils voient qu'ils sont nus et ils ont peur. C'est-à-dire que le péché les a fait entrer dans un état de vulnérabilité. Et cette vulnérabilité, eh bien, le texte nous la décrit comme une nudité du corps. Le corps est comme dépouillé de son vêtement comme de sainteté, de son vêtement d'innocence. Le corps est dépouillé de ce qui lui permettait de vivre dans une relation d'amour et de communion. Il est nu, il est vulnérable. Et cette nudité est tellement, tellement vulnérabilité qu'elle plonge l'homme et la femme dans la peur. Hein? Lorsque l'on voit dans le texte, c'est vraiment très significatif, elle prit son fruit, hein, lorsque Ève est tentée par le serpent, elle prit son fruit et le mangea, elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il mangea. Alors leurs yeux à tous deux s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus. Ils connurent, ils comprirent, ils ont su, ils ont compris qu'ils avaient été trompés. Ils ont compris que leur corps, sans la présence de Dieu comme élément fondamental, que leur corps avait perdu ce qui faisait sa capacité à être image de Dieu comme homme et comme femme. Et tout de suite, l'homme et la femme se cachent. Ils se cachent de Dieu et ils se cachent l'un de l'autre. Le texte encore nous dit de façon imagée, ils se cousent des feuilles et ils se font des. C'est une façon, encore là, de dire que l'homme et la femme, dans ce qu'ils ont de plus profond, ont perdu à partir de ce moment-là cette capacité à être totalement donné, totalement ouvert, totalement découvert devant l'autre, et que finalement, ils vont entrer dans une dimension de méfiance réciproque. Je me cache pour me protéger de l'autre. L'autre est peut-être mon ennemi. Donc vous voyez que c'est toute la relation humaine qui est pervertie par ce péché. C'est la relation entre l'homme et la femme et la relation entre tout homme avec l'autre. Chacun se cache, chacun se protège parce que l'autre devient un ennemi potentiel. Et finalement, d'une certaine façon, toute l'histoire du peuple juif et toute l'histoire de la révélation va être l'histoire d'une humanité qui va apprendre petit à petit à revêtir de nouveau ce vêtement de sainteté. Hein. Saint Paul dira revêtez l'homme nouveau, l'homme ancien s'en est allé, revêtez l'homme nouveau. Vous voyez comme toutes ces images, qui sont des images très profondes et très spirituelles, sont s'appuient fondamentalement sur une réalité corporelle tout à fait évidente. La nudité fait peur. Alors, ce qu'il faut remarquer, c'est que par la suite et dans la pensée biblique, le corps va être un lieu où va s'exprimer toute la fragilité et la vulnérabilité. Hein, le corps ne doit pas être nu. La nudité, tout au long de l'histoire du peuple juif, la nudité est quelque chose qui est mauvais, qui est terrible. Hein. La nudité n'a rien d'érotique parce que la nudité, elle est le signe de la misère. Il y a dans le peuple juif ce lointain souvenir de cette nudité comme la manifestation de la rupture d'avec Dieu. Mais il y a une chose qu'il faut vraiment souligner et sur laquelle je voudrais insister, c'est que jamais l'Écriture ne sépare le corps de l'âme. Hein, dans Testament, dans l'Ancienne Alliance, comme dans la Nouvelle Alliance, il y a quelque chose qui est très clair, c'est que le corps reste le lieu du souffle divin. Il n'y a jamais, dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, il n'y a jamais de réflexion où l'on voit que le corps et l'âme sont deux réalités différentes. Non, le corps est le lieu où se manifeste le souffle divin. Hein. Tu envoies ton souffle, ils sont créés. Tu retires ton souffle, ils tombent en poussière. Et le corps est le lieu où s'exprime la présence de Dieu et le lieu où Dieu rencontre l'homme. Souvent, que ce soit dans les psaumes ou dans certains textes, l'on parle des entrailles comme ce qu'il y a de plus intime, hein, dans l'être humain. Les psaumes, nous connaissons les psaumes où l'on nous dit que Dieu seul scrute les entrailles. Dieu, connaît les reins, sonde les cœurs et les reins, lui seul sonde les cœurs et les reins. Vous voyez que le corps n'est pas une simple construction matérielle qui serait séparée d'une âme. Le corps fait tout, le corps est un tout, il est animé par le souffle divin et c'est au plus profond des entrailles que se manifeste ce qu'il y a de plus intime dans l'homme. Cette conception du corps, hein, dont je vous parle depuis un moment, je voulais préciser que en fait, c'est une conception qui est tout à fait originale, même dans les premiers temps de l'existence du peuple juif. C'est une conception qui est tout à fait originale par rapport à toutes les autres civilisations qui entourent Israël, qui entourent la Palestine à l'époque. Par exemple, lorsque les Grecs, lorsque les armées d'Alexandre envahissent la Palestine, hein, aux environs à peu près du 3e siècle, 2e, 3e siècle avant Jésus-Christ, bien sûr, la Palestine et le peuple juif connaît l'invasion et l'occupation des Grecs. Et ces Grecs vont instaurer à Jérusalem des coutumes qui sont les leurs, les coutumes des bains où l'on va nu, la coutume des jeux où les athlètes se battaient nus souvent. Vous savez, ils s'enduisaient d'huile et ils étaient nus et il y avait tous les jeux, les luttes, etc. Les Grecs exportent leur art à travers les statues, le corps de Dieu dénudé. Et tout cela, eh bien, et pour les Juifs, tout cela est terrible et tout cela est un des éléments qui va provoquer une révolte sanglante, hein, que l'on appelle la révolte des Maccabées, qui va durer extrêmement longtemps, qui va s'étaler dans le temps. Mais c'est l'un des éléments, il y a cette conception du corps qui est que les Grecs importent, je dirais, avec leur occupation, choque énormément et le summum étant que lorsque les Grecs décident d'installer dans le temple de Jérusalem une statue représentant un dieu corporelle. Et c'est une des raisons qui va, je veux dire, ensanglanter Israël pendant presque un siècle, parce que les juifs pieux ne supporteront pas cette coutume de banaliser le corps, d'en faire un objet du regard, d'en faire un objet de regard et de plaisir. Voilà. Alors, il est bien sûr impossible, puisque nous avons, dans le temps que nous avons pour nous rencontrer, de continuer, de passer en revue toutes les harmoniques de cette relation au corps. Je voudrais juste, pour fermer le livre de l'Ancienne Alliance, vous rappeler que finalement, lorsque le prophète Isaïe est purifié par Dieu, eh bien cette purification, elle se fait par un contact corporel, hein, c'est-à-dire que dans un songe, une braise est posée sur ses lèvres pour les purifier. On peut aussi citer l'expérience du prophète Ézéchiel, qui est encore plus saisissante, puisque dans le songe du prophète, eh bien, Dieu lui propose et lui fait avaler la parole de Dieu qui a le goût du miel. Vous voyez que dans le songe, Ézéchiel, on lui fait avaler les rouleaux de la loi. Hein, ce que l'on appelle la parole de Dieu sont les rouleaux de la loi. C'est une image, ce songe est une image qui nous fait entrer dans une expérience extrêmement corporelle de la rencontre avec Dieu, puisque c'est en avalant, c'est en gardant au plus profond de lui cette parole que Ézéchiel fait l'expérience de cette parole qui est douce comme le miel. Alors, bien évidemment, la grande et la vraie libération du corps, c'est celle que nous obtient le Christ, hein, puisque nous avons refermé l'ancienne alliance, dans la nouvelle alliance, le Christ nous obtient cette véritable libération du corps. Et en effet, nous pouvons dire que notre foi est fondée sur le corps. Nous avons une foi de l'incarnation. Nous avons une foi concrète, une vraie personne. Nous avons tout dans notre foi est relié au corps. En effet, le mystère de l'incarnation qui inaugure l'ère du salut pour les hommes, eh bien, ce mystère de l'incarnation, il rend au corps toute sa dignité. Le corps humain retrouve toute sa dignité, puisque en se faisant chair, hein, comme le dit le prologue de Jean, le Verbe se fait chair, eh bien, en se faisant chair, le Fils, qui se fait chair dans le sein de la Vierge, eh bien, le Fils affirme la dignité du corps, puisque ce corps est digne de recevoir le Verbe de Dieu lui-même. Si le corps n'était pas une création digne, on ne pourrait pas imaginer qu'il puisse recevoir Dieu lui-même. Alors, bien évidemment, que Dieu s'incarne dans un corps humain, eh bien, ceci va être une question qui va être très brûlante. Et je ne peux pas ici en déployer encore une fois tous les éléments. Hein, voilà, cette question a vraiment beaucoup. C'est une question qui était très brûlante au premier siècle de l'Église. Mais je pense que ce qui est nécessaire pour nous de savoir, c'est que lorsque le Christ prend notre chair, il lui acquiert une dignité. Et je dirais que cette dignité acquise est encore plus grande que la dignité des origines, qu'il restaure le corps comme lieu de l'amour parfait et du don de soi. C'est dans un corps d'homme que Dieu expérimente et manifeste l'infini de l'amour et du don de soi. Donc, voyez, contrairement à ce que l'on dit souvent et contrairement à ce que l'on a coutume d'entendre, la foi chrétienne, l'Église catholique, ne méprise pas le corps, au contraire. La foi chrétienne, les catholiques honorent le corps. Ce corps est tellement honoré qu'il est le lieu de notre salut, puisque le corps de Jésus est donné pour le salut du monde. Hein. Comme je vous le disais, c'est par un corps que le salut entre dans le monde, c'est par un corps que le salut est donné dans le monde. Et ce n'est pas qu'une image, puisque ce corps, nous allons jusqu'à le manger. Et Jésus nous dit, celui qui ne mange pas ma chair, eh bien celui-là n'aura pas la vie éternelle. Ce sont des paroles qui ont fait s'éloigner beaucoup de disciples que Jésus et qui nous montrent jusqu'à quel point notre foi est une foi du corps, est une foi du concret, est une foi de la chair. Il faut que le corps du Christ se fonde avec le nôtre pour que notre corps humain grandisse dans la sainteté. Et donc, nous voyons, puisque nous sommes en ce moment dans ce temps pascal, nous voyons que de la résurrection jusqu'à l'ascension, nous voyons que le Seigneur va manifester la réalité du corps humain, puisqu'il va se manifester à ses apôtres en leur montrant ses mains, son côté, ses pieds, pour montrer que son corps est réellement n'est pas un fantôme. Il leur dit, voilà, ils croyaient que c'était un fantôme, mais il leur dit, touchez-moi, touchez mes mains, mettez vos doigts dans mes mains, etc. Le corps de Jésus est un vrai corps et il garde encore la marque de la passion, mais c'est pour mieux nous faire comprendre que ce corps a la vocation de passer de ce monde à un autre pour pouvoir contempler Dieu face à face. Notre corps a une vocation ultime qui est de passer dans l'autre monde pour contempler Dieu face à face. C'est extrêmement important parce que ce sont les dernières paroles du credo que nous récitons tous les dimanches, je crois, à la résurrection de la chair et à la vie du monde à venir. Eh bien, par cela, nous manifestons que notre corps est appelé à la vie dans l'éternité. Alors, il suffit bien évidemment aussi, je voudrais pour conclure évoquer saint Paul avec juste deux textes de l'apôtre. Le premier que vous trouverez dans le chapitre de l'Épître aux Corinthiens, c'est un texte dans lequel l'apôtre nous affirme que notre corps est le temple de l'Esprit-Saint, que notre corps est un membre du corps du Christ. Vous êtes votre corps, c'est pas votre esprit est le temple de l'Esprit-Saint, c'est votre corps est le temple de l'Esprit-Saint. C'est extrêmement important de comprendre que c'est le corps lui-même qui participe à notre sainteté. Le deuxième texte qui est bien connu, ou parfois méconnu, c'est celui où l'apôtre Paul toujours compare l'union de l'homme et de la femme à l'union du Christ et de l'Église. Cela va donc nous prouver que l'union des corps est belle, que l'union des corps est un événement qui est beau, parce que sinon on ne pourrait pas imaginer que l'apôtre fasse cette comparaison. On ne peut pas comparer quelque chose de beau avec quelque chose qui est mauvais. Et donc, lorsque l'apôtre compare l'union de l'homme et de la femme avec l'union du Christ à l'Église, l'apôtre nous affirme que notre corps, qui est une réalité matérielle avec ses faiblesses et ses exigences, est aussi le lieu où s'exprime ce qu'il y a de plus spirituel et de plus saint chez l'homme. Alors voilà, notre foi est une foi, parce que c'est une foi de l'incarnation, parce que c'est une foi de Dieu fait homme, de Dieu qui prend chair humaine, notre foi est une foi du corps. Mais il faut signaler que dès les premiers siècles de l'Église, certains ont voulu contester cette beauté du corps et certains ont repris les idées de l'époque qui existaient déjà dans les premiers siècles en affirmant que le corps et l'esprit sont des choses différentes et qu'il n'y a pas de lien entre les deux. Et ces idées philosophiques ont tellement influencé la pensée, l'ont influencé à tel point qu'après avoir dit que le corps et l'esprit étaient séparés, ils ont fini par dire que seul l'esprit était digne et que le corps était une réalité qui était mauvaise ou qui était insignifiante. Et vous voyez, c'est une opinion qui existe depuis très longtemps, depuis même avant l'avènement du Christ, et qui prend à chaque époque des allures de nouveauté. Il y a des époques où le corps est nié, considéré comme mauvais, donc cela donne des mentalités où l'on dit que tout ce qui est relatif au corps n'est pas bon, qu'il faut punir le corps, qu'il voilà. Et puis parfois, à force de nier que l'importance du corps, eh bien, on fait du corps un morceau de chair qui ne mérite ni respect, qui ne mérite pas de soins et qui peut surtout être mis au service de tous les désirs. Hein, voilà, on dit je fais ce que je veux de mon corps. En fait, non, on ne peut pas faire ce qu'on veut de son corps parce que nous sommes responsables de nos corps et nous devons faire en sorte que nos corps soient le lieu où s'exprime ce qu'il y a de plus grand et de plus spirituel en nous. Donc vous voyez, notre religion, notre foi est une foi du corps. Et dans le mariage, eh bien, l'union des corps, c'est quelque chose de très beau et quelque chose d'important. L'union des corps dans le mariage, l'amour entre un homme et une femme qui s'exprime par leur union intime, eh bien, ce n'est pas qu'une question d'instinct. Cette union, elle exprime de façon très forte ce qui lie les époux de façon indissoluble. Et même si l'élément essentiel du mariage, donc cet élément de l'union des corps, est soumis à nos faiblesses, hein, est soumis aux faiblesses de l'homme, est soumis, comme tous les autres aspects de notre foi, hein, dans tous les domaines de notre vie, nous sommes en lutte à nos faiblesses et à nos tendances à être attirés vers le bas, eh bien, cette dimension, elle demande à être embellie, elle demande à être purifiée par un amour qui soit toujours plus à l'écoute et plus volontaire pour faire le bonheur de l'autre. Voilà. Donc l'union des corps dans le mariage, c'est un élément essentiel de l'amour humain et c'est un élément, c'est un lieu où la grâce du sacrement de mariage enseigne patiemment et discrètement. Chacun des époux lui apprend à aimer et à respecter, à honorer l'autre dans son corps. Voilà ce que fait la grâce du sacrement de mariage. Voilà comment est-ce que la grâce du sacrement fait grandir, embellit et transfigure l'amour des corps dans le mariage. Et c'est comme cela que la vocation du mariage pour nous est de rendre au corps toute sa dignité à travers une sexualité qui soit ouverte à l'amour et à la grâce divine.